5 février 1964.
Il m'est arrivé une chose étrange.
Ah oui?
Très, très étrange. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu as rencontré Gamblon? Tu connais Gamblon?
Non, j'ai entendu parler de lui.
Oui, bon. Il a apporté de Paris un livre, un album. Un album de photographie avec, d'un côté il y a une photographie, de l'autre côté il y a le, comment est-ce qu'on appelle ça? Un bloc fait de l'écriture des gens, les autographes, probablement des auteurs connus, des poètes, des écrivains. Alors chaque page, il y a, je n'ai pas regardé, pas lu, chaque page, il y a comme ça, le facsimilé de l'autographe, et puis l'autre côté, il y a une image, une photographie. Ils appellent ça Paris de rêve. Les photos essayent d'être très artistiques. Elles sont prises sous un angle tout à fait inaccoutumé. Et il y en a qui sont très bien. Dans l'ensemble, un peu vulgaire. Trop de gens qui s'embrassent, des chaussettes qui pendent pour sécher. Ils confondent l'artistique et l'inaccoutumé, le manque de conventionnel. C'est très bien de ne pas être conventionnel. Mais enfin, il y a quelque chose qui peut être dans le sens du beau plutôt que. Enfin, je le regardais, tournais les pages. Et en le regardant, je me disais tout de même, quelqu'un qui ne connaît pas Paris du tout aurait une drôle d'idée de Paris. Voir ça. Il n'y a pas une seule chose qui vous fasse dire « Oh, c'est beau !» Excepté une vue de la Seine et puis des arbres. Ça peut être à la campagne aussi bien qu'à Paris. Et tourner. Et tout d'un coup, j'avais ma loupe là pour voir mieux, une vue des quais avec les boîtes des bouquinistes. C'était l'album était grand comme ça, il était à peu près grand comme ça dans la photographie. Cette photographie est plus claire que les autres, moins confuse. C'était plus clair. Et j'ai regardé tous les détails et je me disais c'est dommage que ces boîtes, il n'y en ait pas une ouverte pour voir les livres, ça aurait fait mieux. C'est-à-dire que je l'ai regardé attentivement et j'ai vu tous les détails et les différentes valeurs des, là où il y avait la lumière, là où il y avait l'ombre, c'était pas seulement un coup d'œil. Puis alors j'ai continué à voir. Puis j'ai donné le livre à voir à quelqu'un. Et naturellement, ça, la première chose qu'il a dite, c'est ça ne donne pas tout à fait l'impression de Paris. Je dis oui, mais il y en avait une qui donnait une très bonne impression de Paris. c'était les bouquinistes au quai. Alors j'ai dit, mais oui, j'ai pris le livre, j'ai commencé à tourner. Tourner toutes les pages, ma photo, c'est voilà. Donc j'ai dit, j'ai mal regardé. Je regardais sans loupe, j'ai mal regardé. J'ai pris une loupe, j'ai tourné de l'autre côté toutes les pages, très soigneusement. Voilà. Pas de bouquin. J'ai tourné une troisième fois. Pas de bouquiniste. Je me suis dit, j'ai une aberration quelque part, n'est-ce pas? Quelque chose qui me fait tourner deux pages à la fois, ou qui me voile. Ou... Bon, alors je dis, je regarderai demain matin. Je l'ai laissé. Et le lendemain matin, j'étais toute seule, concentrée. Et j'avais bien concentré. J'ai dit, je ne veux pas être dans une illusion, je ne sais pas, je ne veux pas que quelque chose se moque de moi. J'ai vu ça aussi. Je l'ai vu, je l'ai regardé pour plusieurs minutes, je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis absolument sûr de ce que j'ai vu. J'ai regardé une fois, deux fois, trois. Alors j'ai pensé, il y a quelque chose, un sort. Je veux qu'André lui dire ce matin-là, quand André viendra, je lui donnerai, je lui dirai, tu as fait. Alors j'ai dit à André, puis je lui ai dit, tiens. Il a bien trouvé une des bouquinistes, mais tout fermé, cadenassé, n'est-ce pas? Et moi, j'avais vu ça de ce côté-ci, et ça, c'était de l'autre côté. Et cette photo, je la connaissais bien, je connaissais mon album par cœur, tu comprends? C'était pas du tout ça. Il n'y avait pas de bouquiniste, il n'y avait que les choses fermées. Alors ça avait l'air de rien et c'était de l'autre côté. Rien. Et c'était pas une vue animée, c'était pas une vision, c'était une photo. Comme les autres photos de la même couleur que les autres photos, une photo que j'ai même discuté en tant que photo quand elle était prise. Elle n'existe pas. Elle doit exister quelque part. Mais peut-être qu'ils ont eu l'intention de le mettre dans le livre et ne l'ont pas mis. Peut-être que cette photo est justement c'est l'éditeur du livre. Mais la photo existe, je l'ai vue matériellement avec ses yeux-là, il y a une loupe, n'est-ce pas, enfin. Mais elle n'est pas dans le livre. C'est un... Il y a quelque temps, je me disais... Il y a des gens qui ont des phénomènes physiques à distance, qui voient les choses physiquement à distance. Je me suis dit, moi, j'ai jamais vu comme ça. J'ai vu dans le physique subtil, très proche du physique, avec une très petite différence, mais c'était pas une vision physique. C'était une vision du physique subtil. Il y a quelque temps, je me disais, tiens, physiquement, il n'y a pas de capacité spéciale. Je n'ai jamais eu de phénomène intéressant. Mais c'était une chose en passant. Et puis ça, même un petit, ça m'a pris 48 heures pour être convaincu que ce n'était pas dans le livre. Je ne suis pas encore revenu. Parce que mes yeux ont la mémoire des yeux très précise. Ils ont été éduqués à cause de la peinture. Ils voient très exactement les choses telles qu'elles sont, enfin telles qu'elles prétendent être matériellement. Ben, j'aurais prêté serment que c'était dans le livre. Évidemment, ce n'était pas. Il y a eu 4 personnes à part moi qui ont vu le livre et il n'y en a pas. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est nouveau.
C'est qu'ils ont eu l'intention de la publier, peut-être.
Hein?
Ils ont eu l'intention de la publier.
Ça se peut, ça c'est possible. Et puis probablement ça a été en... surnuméré, hein, plus qu'ils voulaient, ils n'ont pas laissé quelque chose comme ça. Mais la photo existe sûrement quelque part. Et en connexion avec ce livre, n'est-ce pas? Je n'étais pas dans un état spécial là, quand je l'ai vu. Et la seconde fois, le matin, quand je l'ai regardé, j'étais dans un état très spécial, dans le sens que il y avait une tension de toutes les cellules physiques pour la vérité, n'est-ce pas, pas d'illusion, pas de... Et l'appel au Seigneur et la volonté que tout ce monde d'illusions disparaisse, la vérité. Nous voulons la vérité. C'était comme ça. Quand j'ai ouvert le livre, il y avait un grand appel au Seigneur pour que ce soit exactement comme c'est. Mais pas comme c'est selon la vérité. Mais la photo n'y était pas. Ça m'a donné, dans le corps, une intensité d'aspiration extraordinaire. J'ai passé une partie de la nuit comme ça, dans cette tension, que toutes ces illusions disparaissent. Qu'il n'y ait que quelque chose de tout à fait vrai, vrai, vrai. Vrai, essentiellement vrai, parce que on a l'habitude d'appeler, pas confondre le réel avec le vrai. À ce point de vue-là, le corps a fait beaucoup de progrès dans ce... Et la photo n'y est pas. J'ai pensé que c'est peut-être le commencement d'une nouvelle série d'expériences. Il y a une expérience que j'ai de façon de plus en plus constante, c'est savoir exactement quand quelqu'un entre, hein, la personne et la minute. Et savoir exactement quand l'heure sonne, avant que le bruit ne vienne. Ça a commencé depuis longtemps, depuis des mois, mais ça devient de plus en plus établi, constant. Mais c'est rien. C'est commode. C'est tout. Qu'est-ce que j'avais à dire? Tu apportes tout. Il va falloir trouver le moyen comment dire, d'organiser ça et d'utiliser, si. Mais il faut savoir comment ça se produit. Parce que quand je regardais ces images, je n'étais pas dans un état spécial du tout. Je regardais un peu superficiellement, je ne les trouvais comme ça. Je voyais leur effort pour être artistique. Et alors, je trouvais intéressant l'angle avec lequel ils étaient pris. Mais c'était tout. Les sujets, à part des pêcheurs à la ligne. Il y avait plus de 4 pêcheurs à la ligne. Et des gens qui dorment dans la rue, des choses comme ça. Et puis des gens qui s'embrassent partout. Sur les chaises, sur les quais, sur les bancs, sur les... Tu sais, c'est dans les... C'est mon jardin.
Oui.
Ils ont des machins qui tournent comme ça. Et... Ah, c'est vulgaire. Mais les photos, les taches de lumière et d'ombre, bien pris. Et je n'ai pas voulu fatiguer mes yeux à lire la littérature de ces gens, mais probablement ça doit être très moderne. Il y avait de ces signatures, le soir. Rien que la signature, c'est le portrait de l'individu. Prétentieux, maniéré.
L'atmosphère de Paris, c'est irrespirable. Moi, quand je suis retourné en France, d'abord, je suis tombé malade.
Oui.
Il y a une atmosphère qui est horrible. Irrespirable.
Oui.
Terrible. Il faut être cuirassé pour pouvoir vivre là-bas.
Oui, on peut sentir. Une grande corruption. Volerie et cynisme.
On comprend qu'ils ne peuvent vivre que de leur non-réceptivité.
Oui.
S'ils étaient réceptifs, ils ne pourraient pas rester.
Oui,
ils ne pourraient pas rester.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et alors, c'était bien ça, le pêcheur à la ligne. Tu comprends, pêcher à la ligne dans la Seine, on n'a pas idée de ça. Faut être enragé. Alors, on voit les bateaux qui passent avec la fumée noire qui sort. Le bonhomme. C'est ça, enfermé dans son rêve. Paris de rêve. Probablement. Il pense qu'il est près d'un petit ruisseau en pleine campagne.
Peu après, Mère passe à la préparation des aphorismes pour le prochain bulletin.
J'ai regardé les aphorismes aussi.
Ah.
Mais alors vraiment, j'ai aucune question à poser. Bien embêtant.
Quels aphorismes ?
C'est sur la religion. Comment dirais-je, la vérité des Écritures et la vérité de l'âme.
Tu vois ça?
Oui, j'ai ça. Bon, c'est très bien, mais j'ai vraiment ça.
Tu n'as rien à
changer.
Tu apportes ça?
Oui, Lucina, j'apporte. Il y avait deux choses. C'est pour boucher des trous. Il n'y a pas de vis.
Oui. Voir ses entretiens.
Oui. J'ai essayé beaucoup de penser à ces aphorismes, mais...
Lis-moi, un ou deux, nous verrons. Tu les as?
Oui. Il y en a une série de 4 ou 5
oui.
qui sont le même sujet. Que ton âme fasse l'expérience de la vérité des Écritures, puis, si tu le veux, raisonne ton expérience et donne-lui une expression intellectuelle. Et même alors, méfie-toi de tes formules, mais ne doute jamais de ton expérience.
Ça, c'est très bien, mais ça ne demande pas d'explication. C'est-à-dire qu'il faudrait expliquer pour les enfants que ça veut dire que la formule, quelle qu'elle soit, les écritures, quelles qu'elles soient, sont toujours une diminution de l'expérience, inférieure à l'expérience. Ça peut être dit en quelques mots. Il y a des gens qui ont besoin de le savoir. Alors, la suivante.
Quand tu affirmes l'expérience de ton âme et que tu nies, parce qu'elle est différente, l'expérience d'une autre âme, sache que Dieu fait de toi un imbécile.
Oh, ça, c'est charmant.
N'entends-tu pas son rire amusé derrière le rideau de ton âme?
Oh, c'est charmant. On ne peut que faire une réflexion souriante qui insiste sur le fait. Les deux peuvent aller. N'est-ce pas, on peut dire ne doute jamais de ton expérience, parce que ton expérience est la vérité de ton être. Mais... n'imagine pas que cette vérité soit universelle et sur la base de cette vérité-là, ne nie pas la vérité des autres, parce que pour chacun, son expérience est la vérité de son être. Donc une vérité totale ne serait que l'ensemble de toutes ces vérités individuelles plus l'expérience du Seigneur lui-même.
La révélation est une vision directe de la vérité, une audition directe ou un souvenir inspiré. Drishti, Shruti, Smriti. C'est l'expérience la plus haute et toujours susceptible d'un renouveau d'expérience. La parole des Écritures est la suprême autorité, non parce que Dieu l'a prononcée, mais parce que l'âme l'a vue.
C'est à voir. Je suppose que c'est la réponse à la croyance bibliques, des commandements de Dieu reçus par Moïse, que le Seigneur aurait prononcé lui-même et Moïse aurait entendu. C'est une façon détournée de dire que c'est pas possible. Et c'est à voir, ça. Je connais ce machin-là, il m'a fait réfléchir plusieurs fois. Suprême autorité parce que l'âme l'a vu. Mais ça ne peut être une suprême autorité que pour l'âme qui l'a vu. Pas pour toutes les âmes. L'âme qui a eu cette expérience et qui a vu ça, pour elle, c'est une suprême autorité, mais pas pour les autres. C'était une des choses qui me faisait, comment dire, réfléchir quand j'étais tout à fait une enfant. Il y en a 12 des commandements, Dieu. Qui sont d'ailleurs d'une banalité extraordinaire. La chose de... comment est-ce qu'on dit, aime ton père. Quoi? Respecte ton père et ta mère.
Oui, ne tue pas.
Ah oui.
Je ne sais pas.
C'est d'une banalité écœurante.
Oui, vraiment.
C'est Moïse est monté sur le mont Sinaï pour entendre ça.
Beaucoup de bruit pour pas grand chose.
Ça m'a toujours fait. Maintenant, je ne sais pas si Obindo pensait aux écritures indiennes. Alors, ce serait les Upanishads. Ou les Védas. Mais les Védas, non. C'était pas des écritures, c'était oral.
Oui, c'est devenu des écritures.
Ah, mais Dieu sait avec quelle déformation.
Pas trop, puisque c'était répété avec toutes les intonations. C'est ce qui a été le moins déformé de toutes les écritures.
Il y a eu les écritures chinoises aussi. Mais de plus en plus, l'expérience est que la révélation, quand on a la révélation, ça vient, n'est-ce pas? La révélation est une chose qui peut s'appliquer universellement, mais qui, dans sa forme, est toujours personnel. Toujours personnel. C'est comme si on avait un angle de vision de la vérité. C'est comme si si c'est forcément un angle de la minute où c'est mis en mots. On a l'expérience sans mots et sans pensée d'une espèce de vibration qui vous donne la sensation d'une vérité absolue. Et puis si on reste très immobile, sans rien chercher à savoir, au bout d'un certain temps, c'est comme si ça passait à travers un filtre. Et ça se traduit par une sorte d'idée. Et encore cette idée, c'est une idée qui est encore un peu floue comme ça, c'est-à-dire très, 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 très générale. Mais si on reste encore très immobile, attentif et silencieux, ça passe encore par un autre filtre, mais alors c'est une sorte de condensation qui se produit comme des gouttes et ça devient des mots. Mais ça, quand on a eu l'expérience, tout à fait sincèrement, n'est-ce pas, qu'on ne se monte pas le coup, c'est nécessairement seulement un point, une façon de dire la chose, c'est tout. Et ça ne peut être que ça. Il y a d'ailleurs une expérience très évidente, c'est que quand on se sert habituellement d'une certaine langue, ça vient dans cette langue. Pour moi, ça vient toujours en anglais ou en français, ça vient pas en chinois, ça vient pas en japonais. Les mots sont nécessairement anglais ou français, et par conséquent, quelquefois un mot sanskrit, mais parce que physiquement j'ai appris le sanskrit. Autrement, j'ai entendu du sanskrit prononcé par un autre être humain, n'est-ce pas? Pas physiquement. Et ça ne se cristallise pas comme ça, ça reste dans le flou. Quand je reviens à une conscience tout à fait matérielle, je me souviens d'un certain son vague, mais pas d'un mot précis. Par conséquent, c'est toujours un angle individuel, de la minute où ça se forme. Mais, si on n'est pas, comment dire, c'est une question d'une sorte de sincérité très austère. On est pris par un enthousiasme parce que ça apporte une puissance extraordinaire. La puissance est là, elle est avant les mots. Elle diminue avec les mots, mais la puissance est là. Et alors avec cette puissance, on se sent comme ça, très universel, et on a l'impression que c'est une révélation universelle. Oui, c'est une révélation universelle, mais quand tu dis ça avec des mots, ça n'est plus universel. Ça ne s'applique plus qu'aux cerveaux qui sont construits pour comprendre ça. La force est derrière, mais il faut dépasser les mots. C'est pour ça que Ça vient de plus en plus, ces choses-là, toutes ces choses que je griffonne comme ça. Ça vient de plus en plus, et toujours se procéder. Toujours, d'abord, une sorte d'éclatement c'est comme un éclatement de puissance de vérité. Comme ça, ça fait comme comme un grand feu d'artifice, bien blanc, comme ça. Beaucoup plus grand que là. Et puis alors, on est comme ça, et puis ça roule, ça roule, ça travaille, et puis l'impression d'une idée. Mais l'idée est dessous. L'idée, c'est comme un vêtement. Et l'idée contient sa sensation. Ça amène aussi la sensation. La sensation était avant, mais sans idée. Et alors, on pouvait pas définir la sensation. Il n'y a qu'une chose, c'est toujours un éclatement de pouvoir lumineux. Puis après, alors, si on regarde ça, qu'on reste bien tranquille, que la tête se tait sur tout ça, ça se tait tout à fait comme ça. Alors, tout d'un coup, quelqu'un parle dans la tête. Quelqu'un parle. C'est ça, c'est cet éclatement qui parle. Alors, je prends un crayon, mon papier, j'écris. Mais, entre ce qui parle et ce qui écrit, il y a encore un petit passage là, qui fait que, dans cet écrit, tout d'un coup, il y a quelque chose là qui n'est pas satisfait. Alors, je me tiens encore tranquille, alors on a un autre passement-là, celui-ci. Quelquefois, ça prend 2 jours pour être tout à fait définitif. Mais les gens qui se satisfont avec, n'est-ce pas, la puissance de l'expérience, ils vous barquent ça, et puis ils vous envoient dans le monde des révélations sensationnelles qui sont des déformations de la vérité. Il faut être très pondéré, très tranquille, très critique, et surtout très tranquille, silencieux, silencieux, silencieux. Pas chercher, ah, est-ce que c'est ça? Ah, est-ce que c'est ça? Alors on habite. Mais regardez très attentivement, et puis alors, ça, dans les mots, il y a un restant, quelque chose qui reste de la vibration première, si peu, mais il y a quelque chose qui vous fait sourire, qui est agréable, ça pétille, comme un vin moussé. Et puis là, ici, c'est terme. Alors on regarde avec sa connaissance de la langue, ou avec le sens du rythme des mots, et puis on s'aperçoit là, pop, il y a un caillou. On va enlever le caillou et puis on attend. Alors quelque chose, tout d'un coup, ça vient comme ça, pop, ça tombe à la place, le vrai mot. Si on est patient, au bout d'un ou deux jours, ça devient tout à fait. J'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais maintenant c'est un état très normal, très courant, et l'indifférence, c'est qu'avant, on se satisfaisait de l'à peu près. Et quand je revois des choses que j'ai écrites comme ça, je m'aperçois qu'il y a un à peu près. Quand c'est satisfait de l'à peu près. Maintenant, on est plus pondéré, plus raisonnable, plus patient aussi. On attend que ça prenne sa force. Tiens, à ce propos, je me suis aperçu d'une autre chose. C'est que les langues que je connais, je ne les connais plus de la même manière. Et c'est très particulier, surtout pour l'anglais. Il y a une sorte d'instinct qui est basé sur le rythme des mots et qui doit venir je ne sais d'où, peut-être du supraconscient de la langue, qui vous fait savoir si une phrase est correcte ou pas. Ce n'est pas une connaissance mentale du tout, du tout, du tout. Ça, tout ça, c'est parti. Même la connaissance orthographique est complètement partie. Mais c'est une espèce de sens, de sentiment comme ça, de rythme intérieur. Je me suis aperçu de ça ces jours-ci. Pour les cartes on fait des citations. Il y a quelqu'un qui tape des citations. Quelquefois, il fait des fautes. Et alors, il y avait une citation de moi, je ne me souvenais pas du tout. Ni de l'avoir écrit, ni de l'avoir pensé. J'ai lu ça, c'était en anglais. J'ai lu. Et alors, il y a un moment, on fait un faux pas. C'était pas correct. Et alors, c'est venu comme ça. La phrase serait correcte si elle était comme ça. Comme ça. Et le dire, ça le mentalise trop. C'est une sorte de sensation. C'est une sensation. C'est pas une pensée, c'est une sensation. Comme une sensation du son. La phrase écrite comme ça, le son est correct. La phrase, en employant les mêmes mots, en les invertissant, comme ils ont été invertis, la phrase n'est pas correcte. Et alors, pour corriger cette phrase où les mots sont intervertis, il faut ajouter un petit mot. En ce cas-là, c'était « it ». Alors, avec le son « it », là, ça devient correct. Il y a tant de choses que, si on me demandait mentalement, je dirais « je n'en sais rien du tout ». Correspond à aucune connaissance, mais une précision extraordinaire. Et j'ai compris que c'était ça la manière de connaître une langue. J'avais ça toujours un peu en français quand j'écrivais, mais c'était moins précis, c'était plus flou, mais il y avait le sens du rythme de la phrase, n'est-ce pas ? Si la phrase est dans ce rythme, elle est correcte. Si elle est incorrecte, le rythme manque. Très vague. Je n'ai jamais essayé d'approfondir ou de préciser. Mais ces jours-ci, en anglais, ça m'intéresse plus. Parce qu'évidemment, l'anglais est moins subconscient dans mon cerveau que le français. Pas beaucoup moins, mais un peu moins. Et maintenant, Et puis c'est tellement évident, n'est-ce pas, que le plus grand érudit me dirait non, je lui dirais, vous vous trompez. C'est comme ça. C'est ça qui est remarquable, c'est que ces connaissances-là sont tout à fait indépendantes de la connaissance extérieure, érudite, tout à fait. Et elles sont absolues. Elles ne supportent pas la discussion. Dites tout ce que vous voulez, vous pouvez me dire les grammaires, les dictionnaires, les usages, les... C'est comme ça, c'est vrai. Voilà.